franceinter.com.
Édition spéciale.
À propos de bêtes.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La cause animale, 100 ans de militantisme depuis 1850. L'actualité nous le rappelle sans cesse. Souvent, les seuils de sensibilité varient. Ce qui passait hier par pertes et profits, soudain, fait scandale. C'est vrai, des violences faites aux femmes, ça l'est aussi des violences faites aux animaux. Et les deux sujets, d'ailleurs, sont assez proches. Olivia Rosenthal, prix du livre Inter, ne déclare-t-elle pas « Ni les animaux, ni nous ne savons comment faire pour nous émanciper ». Mais les amis des animaux n'ont pas à l'origine parlé ainsi. C'est que selon les époques et selon les milieux, leurs cibles, leurs intentions ont changé. Le militantisme animalitaire n'était pas unitaire, même quand il s'exprimait essentiellement par la société protectrice des animaux. A fortiori maintenant que naissent en France 500 associations d'amis des animaux chaque année. Que n'a pas recensé notre invité, Christophe Traini, bonjour.
Bonjour.
Qui cite ce chiffre au début de son livre, La cause animale, qui vient de paraître aux presses universitaires de France, mais vous avez dépouillé le bulletin de la Société contre la vivisection, né à la fin du 19e, le bulletin de la Société de protection des animaux, né au milieu du 19e siècle. Et vous constatez d'ailleurs dans toutes vos études qu'elles portent sur les animaux ou sur d'autres sujets, que l'émotion, ça c'est très intéressant pour l'historien, ne naît pas des mêmes objets chez nos aïeux, par exemple au milieu ou à la fin du 19e siècle, ou chez nous, du 21e siècle.
Oui, tout à fait. C'est justement ce qui fait l'intérêt de ce détour historique, hein, c'est de comprendre dans quelle mesure les émotions de nos aïeux étaient différentes des nôtres, mais aussi pourquoi les émotions que nous éprouvons aujourd'hui sont aussi, ont été préparées d'une certaine manière par le travail des précurseurs, en l'occurrence de la cause animale, lorsqu'il s'agit de développer des sensibilités quant au, à la manière de traiter l'animal.
Pas de jugement de valeur, donc, chez vous, sur telle ou telle forme
non,
de militantisme dans son évolution.
C'est une approche de sociologie politique donc, qui s'efforce de rendre compte hein, des inflexions, des ressorts sociologiques et qui n'a pas à juger ni à faire une apologie de la cause ou ne doit pas chercher non plus à discréditer. Elle doit s'efforcer de rendre compte justement de toutes les formes d'engagement qui ont caractérisé cette cause. Et parfois, cette cause a été traversée par des divergences à l'intérieur même du mouvement et donc c'est pour ça qu'on doit éviter de juger un parti pris par rapport à un autre.
Alors ceci est dit, comme ça, au début de cette émission, à nos auditeurs qui pourraient aussi s'étonner d'entendre un sociologue, mais il n'y a pas de frontière entre les disciplines. Quand on peut faire de l'histoire, on peut faire aussi de la sociologie. La Radio Nationale, on va entendre beaucoup d'archives qui viennent d'elle, est attentive, bien avant le prix du livre Inter décerné à Olivia Rosenthal, à nos amis, les bêtes en témoignent. Cette émission qui a été confiée en 1947 à la Société protectrice des animaux afin qu'elle dise son histoire et son message.
La Société protectrice des animaux a été fondée en 1845 par le comte de Gramont et reconnue d'utilité publique en 1850. Nous recueillons les animaux qui tombent sur la voie publique, qui sont blessés, et nous les ramenons à notre refuge, et où il y a un service vétérinaire. Par conséquent, ces animaux-là sont soignés avec tous les soins voulus.
Nous nous tournerons maintenant vers M. Dumaine.
J'estime qu'en matière de protection, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par les enfants. J'éprouve une grande satisfaction à tenter de faire germer dans leur jeune cerveau, terrain encore vierge, des principes de pitié et de justice envers les animaux.
On a tout là, alors on va commencer par l'intervention du premier. Oui. Locuteur, c'est M. Bailly, président de la SPA. C'est lui qui offrait la présidence d'honneur à Pétain en 1943, puis qui a offert la présidence d'honneur au général de Gaulle en 1944-1945. L'un et l'autre ont refusé. Il donne les dates fondatrices, 1845-1850, la loi Gramont.
Oui, qui est en fait une loi qui a pour principal objectif de maîtriser la violence populaire et qui est votée essentiellement par un certain nombre de promoteurs de la cause qui s'inquiètent de l'idée qu'en permettant que la violence puisse s'exercer dans l'espace public sur l'animal, on prépare une violence sur les hommes. Donc il y a très clairement une intention au départ de maîtriser la violence populaire. Et d'ailleurs, j'essaie de montrer dans le livre qu'au départ, cette préoccupation-là tend à placer au second plan ce qui deviendra primordial ensuite, c'est-à-dire la compassion pour la victime animale.
Mais la loi Gramont, donc votée en pleine Seconde République, s'applique aux mauvais traitements à animaux domestiques en public,
oui.
Lesquels peuvent donner lieu à quelques jours d'emprisonnement au maximum, mais c'est tout de même de l'emprisonnement. Le deuxième locuteur, c'était M. Dumaine. Et M. Dumaine insistait sur l'idée de compassion qu'on doit faire passer par l'enseignement.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans son propos, on remarque une chose tout à fait intéressante. C'est cette volonté d'insuffler la pitié chez les enfants, mais pas encore véritablement, comme je disais tout à l'heure, parce que l'animal est un être souffrant, mais surtout parce que c'est une manière d'éduquer les enfants à mieux se comporter dans l'espace civique. Et donc, justement, ce qui m'intéressait, c'était de retracer ce modèle pédagogique qui pèse durant toute la première phase qui caractérise la cause animale.
Dans la première phase de la SPA, c'est une organisation d'élite, un peu un club, un cercle privé, des aristocrates, des bourgeois. C'est parce que la République fait passer par ses instituteurs le message de compassion vis-à-vis des animaux que s'élargit.
Oui, tout à fait. En fait, pour être plus précis, au départ, la société protectrice des animaux, à l'instar de son modèle britannique, est en fait essentiellement composée des classes sociales les plus favorisées. Ce sont ce qu'on appelle l'establishment en Grande-Bretagne, et c'est également vrai en France. Mais il se passe quelque chose à la fin du 19e, puisque en fait, ce modèle pédagogique qui vise à éduquer le peuple à un comportement civique, exemple de violence, va d'une certaine manière être assimilée, appropriée par les républicains qui se soucient de construire un nouvel ordre social et politique avec donc des citoyens éclairés. Et des citoyens éclairés doivent apprendre à être solidaires et notamment maîtriser leur violence. Lorsqu'il s'agit de trancher des conflits, s'en remettre plutôt aux institutions de la République plutôt qu'à la lutte ouverte.
Et c'est comme ça que la SPA, 700 membres au départ, en a 4-5 000 en 1900, 10 000 en 1942, puis devient peu à peu une organisation de masse. Et puis vous avez entendu le premier locuteur, le président Bailly, mettre l'accent d'abord sur les refuges, les chiens et les chats abandonnés. C'est pourtant pas comme ça qu'a commencé la SPA.
Non,
c'est pas avec les chiens et les chats.
Pas du tout. Au départ, la loi Gramont et les premières mobilisations sont clairement focalisées sur le sort du bétail et notamment les bêtes de trait qui sont utilisées dans la ville, compte tenu du fait que, avec l'industrialisation massive, les spectacles de chevaux maltraités dans l'espace public, dans les rues étroites, les insultes de cochers, l'usage du fouet sont véritablement un spectacle qui révolte, indigne les premiers protecteurs de la société protectrice des animaux.
Qui viennent souvent du milieu militaire, du milieu
aristocratique. Voilà, milieu militaire, qui sont souvent des philanthropes éclairés qui se réclament de l'hygiénisme social. Alors que la préoccupation pour le chien et le chat est beaucoup plus tardive et elle arrive avec toute une série de transformations de la société protectrice des animaux.
Alors commençons par le cheval, si vous voulez bien. Oui. Christophe Traini, 1845, au moment de la fondation, est diffusé, parmi d'autres, un livre issu de la légende napoléonienne, les cahiers du capitaine Coignet. On a même fait une série télévisée plus tard, signée Claude-Jean Bonnardeau. En voici un extrait. Retour de campagne de Russie, la grande armée se replie dans un froid glacial. Hommes et chevaux, très peu de vivres. Et les vivres, est-ce qu'on ne va pas les donner par priorité au cheval?
Jean-Louis. Oui, Jean-Roch. Qu'est-ce qui reste à l'ordinaire?
4 biscuits.
Donne.
Tiens. 2 pour toi et 2 pour moi.
Les 4. Oh, mon cheval. Mon bon petit cheval. T'es fatigué, je sais. Tiens. Pas grand-chose.
T'es fou, Jean-Roch.
Sans lui, tu serais venu à pied. Depuis Königsberg jusqu'au fleuve Oder. Grâce à lui, nous dormirons cette nuit dans une maison. Ça mérite bien un peu de reconnaissance, non?
Cavalier. On m'avait bien dit que vous préfériez vos chevaux à vos femmes.
Tais-toi, Jean-Louis. Tu déparles.
Bien, mon lieutenant.
Encore un effort, mon poulot. On arrive à l'écurie.
Et ce cheval que soignait le gentilhomme, le soldat, le cavalier, il est fouetté par le cocher.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut remarquer que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ce n'est pas exactement le même cheval dont on se préoccupe. À l'instant, je parlais du cheval qui est maltraité au sein de l'espace public par les cochers, les charretiers, et qui donc indigne les philanthropes de la société protectrice des animaux. Donc c'est, comme on l'a dit, la première priorité dans la première phase de l'histoire de la cause animale. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle, on voit apparaître nouvelles formes de préoccupation pour le sort de l'animal. Et là, si on tend l'oreille, on voit bien que le cheval dont il est question, c'est le compagnon d'infortune. C'est celui qui, comme le soldat, ou dans d'autres passages qui renvoient à des extraits d'archives que j'ai utilisés dans le livre, c'est le compagnon d'infortune de l'ouvrier ou de celui qui est exploité par d'autres. Hein. Et donc, c'est là qu'on voit effectivement que...
Peu à peu vient la compassion.
Que la compassion est le produit d'une évolution lente et longtemps incertaine.
Parce que d'abord, il s'agit de construire des maîtres conscients qui ne soient pas brutaux pour ne pas devenir bestiaux, voire révolutionnaires.
Exactement. Et justement, une des premières préoccupations, c'est de civiliser, le terme est souvent utilisé par les protecteurs des animaux, ceux à qui on confie les bêtes, hein, les charretiers, les cochers en tout premier lieu. Mais ensuite, ces classes sociales subordonnées, dans un second temps, vont être amenées à s'identifier eux-mêmes à la bête maltraitée et considérer qu'en définitive, se préoccuper du sort de l'animal est d'autant plus légitime qu'en réalité, c'est une manière de dénoncer les abus de la force contre les faibles et contre les opprimés.
Je reviens au cheval. Le cheval, il est l'objet numéro un au départ, mais il y a aussi une lutte très ancienne de la SPA, par exemple, contre la corrida. Mais quand la SPA lutte contre la corrida, c'est pour défendre le cheval d'abord.
Plutôt
que le taureau.
Oui, tout à fait. On a des archives où les protecteurs des animaux ou de la SPA sont les premiers à dire que le sort du taureau n'est pas véritablement un sujet de préoccupation, puisqu'ils utilisent même le terme de piqûre, hein, pour décrire les attaques, les banderies, le travail des banderies et du picador. En revanche, le cheval est évidemment largement l'objet de l'indignation des protecteurs des animaux, puisqu'il faut savoir que le carapaçon ne sera inventé dans les années 1930, ce qui veut dire que les spectacles de tauromachie, la plupart du temps, se terminait par des spectacles d'éventration du cheval. Et donc, ça révolte beaucoup de cavaliers, hein, qui sont issus souvent de l'aristocratie. Et ça révolte également les classes, de la bourgeoisie issue d'une certaine philanthropie, qui, là encore, considèrent qu'habituer le public à un tel spectacle, aussi horripilant, aussi horrible, c'est préparer des mœurs de violence et qui risque de peser sur l'ordre social.
Souvent, dans les arguments de la SPA contre la corrida, on voit aussi percer des éléments nationalistes, la barbarie espagnole.
Oui, là c'est le contexte, hein. On ne peut évidemment pas traiter l'histoire de la protection animale comme de n'importe quelle cause en faisant abstraction du contexte. Le 19e est un siècle de nationalisme et il est évident qu'on peut difficilement rendre compte des mobilisations sans remarquer à quel point le discours qui consiste à dire nous avons des mœurs plus civilisées que d'autres qui maltraitent les animaux est récurrent. Il est récurrent en France lorsque les protecteurs des animaux dénoncent la barbarie de la corrida espagnole. Mais dans la même période, il faut savoir que les Anglais, eux, dénoncent la vivisection comme une pratique typiquement continentale d'Anglais et de Français.
L'histoire de la protection des animaux, dites-vous, voilà. C'est une histoire transnationale. Ici, pour clore ce chapitre taureau, on est à Nîmes, mais pas à la période que vous décrivez, beaucoup plus tard, dans les années 1980. C'est un extrait d'un film de Jean Labrune. Un médecin ne supporte pas la corrida, lui soulève le cœur, littéralement, car elle lui rappelle la brutalité d'une certaine Espagne.
Tiens, vous voulez voir un taureau? Touche, toi. T'appelles comment?
Simon.
Simon comment? Et toi?
Marc comment? Eh ben, votre grand-père, il s'appelait Miguel. Miguel Vasquez. En septembre 1937, il avait 28 ans, et moi un an. Et un jour, les franquistes sont venus l'arrêter, ils l'ont conduit dans les arènes de Badajoz, les mêmes que celles-là, avec des centaines d'autres républicains. Et là, ils les ont laissés des heures sous le soleil. Et à 5 heures, au lieu de faire sortir un taureau, ils ont fait sortir une mitrailleuse. Ils ont tiré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne debout. Après, ils les ont entassés dans une camionnette, comme celle-là, la même que celle-là. Et ils les ont sortis au milieu de la foule, les mêmes crétins hurlants qu'aujourd'hui.
Premier moment, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie. Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Si, si,
ombre, ombre. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Christophe Traigny qui vient de publier La cause animale au PUF. Alors vous y faites une sociologie historique. Vous montrez comment, passant des classes supérieures aux classes subordonnées, gagne peu à peu la compassion. Ici on entendait le taureau exprimer son point de vue. Je vais vous humaniser là, monsieur le professeur de sociologie. Vous chantez ça aussi?
Oui, il se trouve que... Au cours de mes loisirs, je chante et avec une guitare et j'aime beaucoup cette chanson de Francis Cabrel. Le texte, d'ailleurs, a lui aussi une histoire qui renvoie à ces inflexions dont on parlait précédemment, puisque j'explique dans le livre comment l'un des éléments déterminants dans l'histoire de la cause animale, c'est l'apparition de récits écrits souvent par des femmes, souvent destinés aux enfants, et qui, pour la première fois, on est à la fin du 19e, est construit du point de vue subjectif de l'animal. Et donc c'est un récit mené à la première personne et qui bien évidemment est un dispositif particulièrement utile pour dénoncer la souffrance des victimes animales. Et là, en l'occurrence, c'est la dénonciation de la corrida est d'autant plus puissante que le chanteur aborde le point de vue du taureau.
Vous allez parler de la compassion telle qu'elle est transmise par les femmes, mais longue tradition de la Radio Nationale qui donne d'abord la parole aux hommes dans les émissions consacrées aux animaux. La fonction de récit, elle était exprimée par des misanthropes comme Paul Léotot, qu'on va entendre dans un extrait de ses grands entretiens avec Robert Mallet, ou bien, alors ça c'était une émission régulière, par un vétérinaire mondain comme le docteur Méry.
Je me rappelle qu'un homme dans les environs de Paris avait pris la résolution de noyer son chien. Alors, il est allé au bord de cette rivière ou de ce fleuve, la Marne, ou je ne sais plus, n'est-ce pas? Et à trois reprises, il a jeté violemment ce chien à l'eau. Et le chien revenait toujours sur la berge. À la quatrième fois, cet homme était tellement furieux, n'est-ce pas, qu'il a fait un tel effort que lui-même aussi est tombé dans l'eau. Et le chien l'a ramené sur le rivage.
Comme tous les mercredis à la même heure, l'émission du docteur Méry à propos de bêtes.
Tout à fait exceptionnellement, mais vraiment exceptionnel, voici l'annonce d'une chienne perdue. C'est une petite pincher noire et feu qui s'est enfuie le 12 septembre à la suite d'un très grave accident d'auto à Paris, au coin de la rue de Longchamp et de l'avenue Victor Hugo. Ses maîtres, qui étaient un monsieur, une dame et une fillette, ont été grièvement blessés. Leur vie n'est tout de même pas actuellement en danger, mais le sort de Chouquette bouleverse la petite fille. Alors nous demandons à toute personne susceptible de donner quelques renseignements sur cette petite chienne de bien vouloir les communiquer à monsieur Boucherin, dont le téléphone est Jasmin 85 97. Et encore une fois, il ne faut pas écrire à la radiodiffusion française, mais s'adresser directement au refuge de Gennevilliers, sauf pour le chien dont je viens de vous parler, au refuge de Gennevilliers, dont le numéro de téléphone est Grésion 1507.
Ah, le docteur Méry, amené notamment par Pierre Desgroupes à la radiodiffusion nationale.
Oui, et qui est une figure essentielle, là encore, pour comprendre une des évolutions les plus récentes de l'histoire de la protection animale. Hein. Et c'est là qu'on voit la nécessité du détour historique. On peut dire que la roue tourne, d'une certaine manière, hein, puisque ce qu'on remarque, c'est qu'au départ, la cause animale est donc essentiellement une préoccupation hein, de classe aisée et centrée sur le sort du cheval et du bétail. Ensuite arrive une compassion pour l'animal et donc pour l'animal d'affection, le chien et le chat. Et il y a, à la fin du 19e, une forme de délégitimation hein, de la cause, hein, on en parlera peut-être plus loin, et il a fallu attendre justement le travail d'une nouvelle génération de militants comme Fernand Méry qui vont contribuer justement à revaloriser d'une certaine manière la protection animale et justifier le fait qu'on puisse s'intéresser effectivement aux chiens et aux chats. Et
dans la clientèle du docteur Méry, de femmes, alors les femmes dont vous dites, Christophe Traini, qui sont coincées par les représentations sociales, consignées dans des rôles fixés, et que du coup, leur intérêt pour les animaux vient de la possibilité que les animaux leur donnent d'avoir un rôle.
Donc là, on est dans la phase antérieure hein, à cette revalorisation de l'intérêt pour le chien et le chat grâce à des vétérinaires comme Fernand Méry, qui aussi font évoluer notablement la carrière et le métier de vétérinaire. Dans la phase antérieure, en fait, on remarque qu'il y a une féminisation très nette de la cause animale qui est liée à une focalisation sur le chien et le chat. Et je retrace l'histoire des premiers refuges qui, il faut le savoir, ont suscité de très fortes réactions et de controverses hein, très vives hein, de la part des premières générations de protecteurs des animaux qui considèrent que c'est une protection animale pas sérieuse qui touche à la sensiblerie. Et en fait, ce n'est que progressivement, hein, justement au fur et à mesure que se développe cette compassion et cette identification à l'animal qui doit beaucoup à la place croissante du chien et du chat dans les foyers, qu'on va avoir une société protectrice des animaux de plus en plus investie par des femmes qui trouvent justement dans cette protection animale une manière de sortir des statuts auxquels elles sont assignées à l'époque.
C'est-à-dire présidée à un moment décisif par les femmes, Camille de Gast, et puis vous citez aussi de grandes féministes dont on ignore parfois l'intérêt qu'elles portaient aux animaux, Marguerite Duron.
Oui, Marguerite Duran,
fondatrice de la Fronde, Séverine.
Séverine, Mario.
Alors Mario qui faisait déjà les ZAP.
Oui, tout à fait.
Et un ZAP, c'est
C'est en fait une intervention tonitruante au sein d'un espace public pour en fait dénoncer un discours attendu.
Ce que font maintenant pas mal de militants anti-vivisection. Alors consacrons un petit moment à la lutte contre la vivisection. Un auditeur, pendant l'émission, nous dit « Avez-vous plus d'informations sur d'éventuels razzias et trafic d'animaux pour la fourrure ou pour la vente à des laboratoires privés en vue de vivisection ?» C'est un des grands arguments, ça, des militants anti-vivisection, parmi lesquels on retrouve toujours inévitablement à la radio nationale le misanthrope de Fontenay, j'ai nommé Paul Léoto, qui n'a pas beaucoup de respect pour les médecins qui pratiquent la vivisection.
Monsieur Georges Beaune, qui habitait dans Marie, qui était professeur au PCN, et vivisecteur, c'est lui qui avait eu la seule charité, comme il m'a dit, je n'ai jamais consenti à faire l'expérience du curare dans mon laboratoire. Bon. Et un soir, il me dit, cet homme était la niaiserie même sortie de son laboratoire, il me dit, oh écoutez, c'est très curieux, tous vos chats sont derrière la grille. On dirait qu'ils connaissent l'heure. Mais je lui dis, monsieur Beaune, ils la connaissent parfaitement. Vous ouvrez les bêtes, mais vous ne les connaissez pas. C'était un sot. L'été, il partait dans un coin maritime de la Bretagne, je ne sais plus où, et là-bas, il faisait des expériences sur les huîtres. N'est-ce pas ? J'ai toujours pensé qu'il y avait une certaine affinité dans cette occupation.
Vivisection, opération pratiquée sur un animal vivant, pour l'étude de quelques phénomènes physiologiques.
Sur la planchette évidée, la tortue sera liée à quatre crochets. Après avoir immobilisé la tête et les pattes antérieures, on incise la peau du cou afin de faciliter la pénétration de l'aiguille à décérébrer. La tortue étant fixée dans un étau, on scie la carapace latéralement. À l'aide de ciseaux forts, On décolle le plastron des muscles ventraux. On sectionne les clavicules. On retire la partie ventrale de la carapace. Le plus souvent, c'est dans cet état que l'on vous donne la tortue.
Société contre la vivisection, fin du 19e, il faut dévoiler les pratiques secrètes et le sadisme. Vous avez vu comment on crucifie les tortues. Alors,
en quelques
de la
mots,
vivisection.
C'est très difficile de parler du mouvement de vivisection qui est un des moments cruciaux, hein, justement, puisqu'il résume à lui seul ce mouvement, toutes les contradictions et la complexité de la cause animale à la fin du 19e. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on voit ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, là, on passe dans une protection animale qui se préoccupe véritablement de la souffrance de la bête et qui, dénonce le travail de ses bourreaux qui ne sont plus, pour le coup, des cochers, des charretiers, des populations peu éduquées, mais au contraire... Contraire des savants, des scientifiques, des gens qui ont des ressources. Hein, et donc, on rejoint donc ce que je décrivais tout à l'heure comme l'apparition d'une une protection animale beaucoup plus subversive, c'est-à-dire qui amène certains à faire un parallèle entre le mauvais traitement que peuvent subir certains hommes et le sort qui est réservé aux animaux. Hein, et donc, on a là, à travers le mouvement anti-vivisection, un de ces moments de transition vraiment important, hein, puisqu'au début, on a un mouvement porté par des classes sociales favorisées. On est typiquement...
Dont des médecins et des vétérinaires.
Des médecins et vétérinaires. Là... Et on est dans ce que je décrivais au début de l'émission. Et on a ensuite, en revanche, des gens comme Marie Huot, Séverine, et aussi parfois des socialistes qui dénoncent justement cet abus de la force et des systèmes d'exploitation auxquels ça donne la science à l'époque. Et depuis, évidemment, le développement des systèmes d'exploitation industriels des animaux au travers l'élevage intensif notamment, n'a fait que intensifier ce genre de critique.
Alors, on n'a pas le temps de développer la dernière période que, d'ailleurs, vous ne voulez pas juger, ce n'est pas votre rôle, Christophe Traini. Mmh. Les animaux sont-ils encore des biens ayant une valeur morale ou bien deviennent-ils des personnes et dans ce cas deviennent-ils des sujets de droit? On s'arrête aux années 60-70. Tenez, ce film, Le chat de Pierre Granier de Fer, date de cette époque.
Qu'est-ce qu'il y a dans mon beau-père?
Ce que tu lui as fait, toi?
Rien.
Mon père, il a le cœur qui bat.
Pourquoi tu le bêtes?
Tu te fous de moi, non? Je comprends bien que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi.
D'abord, j'en veux un, moi aussi.
À quoi?
À l'animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Alors, je veux une bête à moi.
Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu vous foutras la paix.
Salaud. Et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chien-là dans ma chambre.
Dans ma chambre, dans l'autre chambre. Et sur mon lit.
Ah, alors voilà. La nerf petit bourgeois qui n'aime plus son gros minou. Miaou, miaou, miaou.
Voilà, au fond, Gabin et Signoret qui se comportaient comme chien et chat face à face étaient prêts à entendre la question. L'animal est-il une personne? Merci à vous, Christophe Traini. La cause animale, c'est votre livre paru aux presses universitaires de France. Gilles Gaillard et Yann Bouillot à la technique. Jacques Sigal à la réalisation. Camille Poux, Jean Laguier, Franck Olivard et Frédéric Martin pour la préparation de l'émission.